Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, Radio X.
Notre deuxième rendez-vous ensemble sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Et oui, ça commence un petit peu plus tôt cette saison-ci, de 18h jusqu'à 19h, les Radio X-Files. Et l'actualité oblige, on change un petit peu la formule. On la change pas au complet. On a changé la rotation des sujets pour commencer la nouvelle année. On a, la semaine dernière, parlé des ovnis. Et actualité oblige, cette semaine, il sera mention des questions des auditeurs et un gros événement est survenu en début de semaine et vous comprendrez que la première question de l'auditoire des Radio X-Files implique l'investiture plutôt de Donald Trump. Et voici un extrait audio pour débuter ce deuxième épisode des Radio X-Files.
There's a lot of interest in people coming from space, you know.
Yes.
And I know you're interested
in
that.
Oh, very interested in that. How much did they tell you about that?
A lot.
Really?
Yeah.
What did they tell you?
But I interviewed a few people. It's never been my thing, I have to be honest. I have never been a believer. I interviewed jet pilots that say they saw something. And they said, we saw things, sir, that were very strange. Like a round ball, but it wasn't a comet or a meteor. It was something. And it was going 4 times faster than an F-22, which is a very fast plane, you know. It's not a great interest for me, but it's a little interest. I get that question as much as almost any question. Do you think that we have aliens coming, you know, flying around or...
C'est chose faite, mon cher Christian. Bonsoir.
Bonsoir.
Il est le 47e président des États-Unis. L'extrait qu'on vient d'entendre, Ça doit probablement être tiré de son entrevue avec Joe Rogan, ça se peut-tu?
Effectivement. Donc, en octobre dernier, le président Trump était invité chez Joe Rogan. Et donc, oui, je veux simplement préciser que la semaine dernière, quand on a fait les Radio X-Files, c'était la sortie du projet Ciel Canada, donc
voilà.
On a fait une émission spéciale pour ça. Mais quand on s'est quitté en décembre, on en était dans la rotation de nos émissions, aux questions du public. C'est pourquoi on reprend ce soir, là où on était en décembre, les questions du public.
Exact.
Cela étant précisé maintenant, oui, Joe Rogan recevait Donald Trump en octobre dernier. C'était juste avant les élections où il a été élu 47e président des États-Unis. Et durant cette conversation, c'est pas un secret pour personne, Joe Rogan est très intéressé par la question des ovnis.
Oui.
Il a reçu de très nombreuses reprises des gens qui sont venus parler à l'émission de Joe Rogan. C'est d'ailleurs un peu le reproche que je fais à Joe Rogan. Et là, je veux pas lancer une controverse, mais le problème que je trouve dans ces entrevues, parce que je reconnais que Joe Rogan est un podcast qui est très populaire.
Ouais.
Très peu de podcasteurs peuvent se vanter d'avoir une brochette d'invités comme lui, il a. Hein. Je pense que tous les grands sont passés là. Puis pas simplement des espèces de coucous, là. On parle, bon, certains diront, ouais, mais Donald Trump est un coucou. Ouais, mais il y a quelques semaines, il avait reçu Neil deGrasse Tyson, qui est probablement l'astrophysicien de l'heure. Tu sais, il a reçu vraiment, Brian Cox, qui est passé également à son émission, qui est un astrophysicien britannique. Non, Joe Rogan a une qualité d'invité qui est tout à fait extraordinaire. Ce que je reproche à Joe Rogan, c'est malheureusement quand il s'agit de gens auxquels il adhère à leurs croyances. Ben là, et certains diront, oui, mais Joe Rogan n'est pas un journaliste. C'est vrai. Mais quand on tient un micro et on s'adresse à des millions de gens, parce que c'est exactement l'auditoire de Joe Rogan, ce sont des millions de gens qui écoutent ça, je pense qu'il y a quand même une responsabilité à être un peu moins complaisant. Il y a des gens qui ont dit des bêtises énormes. Et je ne sais pas pourquoi, parce que c'était des gens, est-ce que ça faisait partie d'une entente de coulisses entre Joe Rogan et son invité? Est-ce que c'est parce que Joe Rogan adhère à ces espèces de croyances un peu fantaisistes? Mais il a reçu des invités, mais qui t'ont dit des inepties, et il les a laissés aller pendant une heure, là.
Je crois que le phénomène podcast qui amène ça aussi, l'espèce de trop grande liberté. T'sais, on a une responsabilité sur les ondes publiques que le podcast a un peu moins, je pense.
Oui, et tu as raison. Et si c'était un podcast qui attirait 2 ou 3 000 auditeurs, je ferais aucune mention de
je
ça.
Je comprends.
Mais à un moment donné, quand on est Joe Rogan, on ne peut pas me dire à moi que Joe Rogan n'est pas conscient du nombre d'auditeurs qui syntonisent son émission qui s'appelle Joe Rogan Experience. Et je tiens bien à préciser, hein, Joe Rogan reçoit de très, très bons invités. Mais quand il tombe dans ce que je pourrais appeler son groupe de coucou, là, il les laisse aller dire des énormités là, qui sont même troublantes. T'entends ça, tu disais, attends une minute, là c'est troublant. Là. Le type est en train de nous dire qu'il a trouvé une roche au fond de l'eau, puis parce qu'elle a un arête carré, c'est forcément des extraterrestres qui ont fait ça. Non. Moi, je peux te montrer des anomalies dans la nature qui sont tout à fait fascinantes. On pense, par exemple, à la chaussée des Titans qui se trouve en Irlande. Bon, c'est des formations géologiques qui sont aberrantes, puis c'est pas les extraterrestres qui ont fait ça, là. Tu sais, il y a des trucs comme ça, tu dis, attends une minute, à un moment donné, Joe, là, tu devrais dire, écoute, c'est un peu étrange ce que tu me dis là, là. Tu sais, bon, mais il ne le fait pas. C'est libre à lui, c'est son podcast. Mais bon, c'était un petit peu ma sortie éditoriale sur Joe Rogan. Mais cela étant dit, je reconnais que Joe Rogan reçoit des invités qui sont tout à fait incroyables. Et il a avec ces gens-là des discussions et des entrevues qui sont tout à fait passionnantes. On en revient en octobre dernier, il reçoit Donald Trump, donc une longue discussion d'ailleurs, on a reproché un peu justement à Kamala Harris
de ne pas être allée.
Voilà, de ne pas être allée, pas forcément à Joe Rogan, mais ne pas s'être adressée à ces médias dits alternatifs. Hein, elle a donné des entrevues dans des grands médias, ce qu'on mainstream, qu'on pourrait dire, si on permet l'anglicisme. Mais ces médias qui sont de plus en plus populaires, hein, les Joe Rogan et compagnie, qui s'adressent à un auditoire beaucoup plus jeune, elle a complètement mis ça de côté. Alors que Donald Trump a accepté d'aller chez Joe Rogan. C'était un excellent move politique. Je veux dire, si on s'adresse à un public jeune, etc. Donc, il se présente à Joe Rogan, on l'entend dans l'entrevue, ils se sont mis bien sûr à aborder la question des ovnis. J'ai choisi un extrait, j'ai raccourci bien sûr, parce que je crois qu'il a été là pendant 2 heures à discuter avec Joe Rogan. Il a dit plein de choses, et à un moment donné, lorsqu'ils abordent la question des ovnis, Donald Trump fait ce petit commentaire, il dit « bon, ça ne m'a jamais vraiment intéressé, mais j'ai parlé à des gens qui m'ont dit qu'ils avaient vu des trucs extraordinaires,
des pilotes.
Là, il raconte des pilotes, etc. » Il dit que souvent, on lui pose cette question. Et à ce niveau-là, il a tout à fait raison. Depuis les 20 ou 30 dernières années, je pense que tous les présidents américains, Barack Obama, Bill Clinton, les Bush, se sont tous fait adresser la question des ovnis. C'est devenu un sujet, mais dans les années 60-70, c'est un sujet qui était très marginalisé, quoique dans les années 70, le président tout récemment décédé, Jimmy Carter, avait dit qu'il avait lui-même vu un ovni en 1969. On a appris par la suite avec des investigations qu'il a probablement été trompé par le lancement d'une fusée qui a lancé un nuage de barium. Lui se trouvait en Géorgie et là où il regardait en direction de la Floride. Et tout paraît, en fait, à l'ouest de Tallahassee, il y a une base militaire et on a procédé à des lancements et on a largué dans l'air du barium qui fait des espèces de nuages lumineux. Et c'est, quand on regarde les registres des lancements de cette base militaire, ça correspond à l'observation, à l'heure et au lieu et dans la direction à laquelle Jimmy Carter observait. Parce qu'au début, des gens, les critiques avaient dit probablement qu'il a été confondu par la présence de la planète Vénus.
Okay.
Et là, je peux comprendre que les amateurs d'OVNI avaient fait une levée de bouclier en disant « Voyons donc, Jimmy Carter n'aurait pas confondu la planète Vénus. » C'est un ancien de la US Navy. Il a même appris à se guider en mer à partir des étoiles. Donc, il n'aurait pas fait une erreur aussi grossière que de se tromper avec la planète Vénus. Et ils avaient raison. Il aurait fallu attendre des nombreuses années pour avoir accès au registre militaire pour découvrir, en fait, que ce n'était pas un objet venu d'une autre planète, mais la confusion était tout à fait raisonnable, hein, parce que des nuages de baryum, on n'en voit pas souvent, et ça crée cet effet lumineux, là, très fluorescent, et c'est ce qui a trompé visiblement Jimmy Carter. Mais bref, à part Jimmy Carter qui en avait parlé dans les années 70, c'est un sujet qui était mis un peu de côté, et faut dire que la relation entre les présidents et le paranormal, c'est jamais très très bon. Hein. Combien de fois on a reproché, par exemple, au couple Reagan de s'être intéressé à l'astrologie. Je pense pas que Ronald Reagan prenait ses décisions en suivant les cartes du ciel, mais on sait que Nancy, son épouse, était très intéressée par le sujet, que lui-même n'était pas insensible à l'astrologie. Et les détracteurs du couple Reagan, ben, souvent faisaient des petits commentaires en propos d'une décision. Quand c'était une mauvaise décision, on disait ben, peut-être qu'il s'est trop fié aux cartes du ciel ce soir-là, bon, etc.
Il n'aurait pas dû lire son astrologie avec son café le matin.
Oui, c'est ça. Pour moi, les signes du ciel n'étaient pas avec lui aujourd'hui. D'ailleurs, même ici au Canada, hein, dans les années 40 et 50, surtout dans les années 40, on avait un premier ministre, William Lyon Mackenzie King, qui lui était passionné par le spiritisme. Et on a appris après la mort de Mackenzie King, et là, quand on parle d'une passion pour le spiritisme, c'était une passion dévorante. Hein. Il organisait des soirées avec des médiums. Lui-même, Mackenzie King, s'était découvert des dons de médium.
Oh.
Il écrivait ses rêves parce qu'il était convaincu que des esprits communiquaient avec lui à travers ses rêves. Mais c'est un grand premier ministre. Hein. William Lyon Mackenzie King a été, de l'avis de tous les historiens, un très grand premier ministre. Mais les gens autour de lui, ses conseillers, avaient peur que cette information sortent, même si elle est sortie quand même un peu. Là. Moi, en fouillant dans des archives, j'ai vu quelques caricatures où on voyait Mackenzie King en train de parler aux esprits.
Okay.
Mais c'est demeuré relativement ténu. Je pense que si les journalistes avaient appris à quel point on savait que Mackenzie King s'intéressait au spiritisme, ce qui n'était pas nécessairement extraordinaire pour la classe politique ou même une certaine élite de la société de s'intéresser au spiritisme dans les années 30 ou 40, comme le faisait Mackenzie King. Plein de têtes couronnées en Europe s'y intéressaient aussi. Mais si on avait découvert à quel point Mackenzie King était intéressé par le spiritisme, à quel point c'était une passion dévorante, probablement que ça aurait pu nuire à sa carrière politique.
Ça l'aurait discrédité un petit peu. Là.
Sans aucun doute.
C'est basé sur quoi? Il prend sur la table de Ouija pour une décision, il attend que ça soit oui ou non pour gouverner le pays?
Tu as tout à fait raison. Et on a appris d'ailleurs avec la publication des carnets de Mackenzie King la famille Mackenzie King avait demandé que ces carnets-là soient détruits à sa mort. Ce qu'on n'a pas fait, heureusement, ça nous laisse une page d'histoire extraordinaire. On peut plonger dans la pensée, dans la psyché de Mackenzie King. Et c'est là qu'on découvre toutes ses passions. Mais toujours selon ses carnets, il s'est abstenu de faire des séances de spiritisme entre 1939 et 1945, donc période de la Deuxième Guerre mondiale, au cas où l'information sortirait. Il ne voulait pas offenser qui que ce soit, parce qu'on envoyait quand même des soldats canadiens au front qui tombaient là, littéralement comme des mouches, on pense à Dieppe et autres. Là. Donc, on ne voulait pas attiser quoi que ce soit autour de ça. Mais bon, je sais que je fais un grand détour, mais tu vois que c'est quand même très intéressant. Hein? Depuis
vraiment?
Une vingtaine d'années, 20-30 dernières années, il n'y a pas un président américain qui n'a pas été questionné sur cette histoire d'OVNI. Certains ont raconté des trucs un peu à la blague, mais je pense par exemple au couple Clinton qui était très intéressé par ces questions de vie extraterrestre. Peut-être pas Hillary Clinton davantage, peut-être sur les ovnis, mais Bill Clinton, lui, était très intéressé par « y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers? » Ces grandes questions-là l'intéressaient. Et il a raconté à un moment donné, lors d'une émission où il était à une émission de fin de soirée par Jimmy Kimmel, il raconte, Kimmel lui disait, « Moi, si j'avais été président comme vous, là, la première affaire que j'aurais fait, c'est de me précipiter pour voir s'il y avait des trucs sur les ovnis. » Et Clinton raconte une anecdote assez amusante. L'un des très proches conseillers du président Clinton, qui a été aussi conseiller pour Obama, qui est un type qui s'appelle John Podesta. Lui, Podesta, est un véritable passionné des ovnis. Et à un moment donné, Clinton raconte, il dit, lors de l'émission de Jimmy Kimmel, il dit, à un moment donné, on se faisait poser des questions sur l'Area 51. Donc, et là, Clinton répond, il dit ça, l'Area 51, hein, pour situer les gens.
Ben...
c'est une région, une base militaire dans le désert du Nevada où on raconte qu'on garderait des ovnis et des extraterrestres. Et là, il dit, pendant que j'étais à la Maison-Blanche, Blanche, à un moment donné, j'ai chargé un de mes conseillers, on sait aujourd'hui que c'est John Podesta, et j'ai chargé un de mes conseillers à se rendre à cette fameuse base-là pour voir s'il y avait des extraterrestres, soucoupes volantes et tout le reste. Puis finalement, il est revenu pour me dire que non, on ne fait que du travail de développement en aéronautique. Bon, évidemment, c'est une bonne blague, c'est amusant. Dans une entrevue, Barack Obama s'est fait poser la même question et on a abordé aussi Area 51 et il a donné cette même réponse hein, qu'on ne faisait que du développement en aéronautique. Bien sûr, ça veut pas. Je peux comprendre que les gens qui écoutent ça se disent bah, ils nous comptent la. C'est-tu la vérité? C'est pas la vérité,
choses.
Ils nous cachent des choses. Est-ce que bon. Mais bon. Laissons ça à l'histoire qui un jour probablement va statuer de manière définitive sur ça. Mais on voit que le sujet des ovnis est un sujet important.
Et Area 51 est mythique. C'est devenu un symbole de ça, littéralement.
Oui, tout à fait. Et lors de la première campagne électorale, rappelons-nous, qui opposait Donald Trump à Hillary Clinton, elle aussi, Hillary Clinton, s'était présentée sur le plateau de Jimmy Kimmel et elle a dit ouvertement, elle a dit, d'ailleurs, c'est elle qui a lancé l'expression PAN, hein, les phénomènes aériens non identifiés, là, parce que personne, on appelait ça encore les ovnis, puis quand Jimmy Kimmel l'a questionné, hein, ben, on était en pleine campagne électorale à ce moment-là, Kimmel lui dit, si vous êtes élue, Mme Clinton, je sais que votre mari en a déjà parlé ici à l'émission, mais vous, qu'est-ce que vous allez faire avec les ovnis? Et là, Hillary Clinton de répondre, elle dit, d'ailleurs, on ne dit plus ovni, on dit un PAN, un phénomène aérien non identifié, mais elle dit, si je suis élue, je vais rouvrir l'enquête sur les ovnis, puis s'il n'y a rien, ben, je vais le dire aux gens, il n'y a rien. Puis c'est quelque chose, on va le dire. Donc, on voit que ça, c'est un sujet, même si ça s'adresse à un petit électorat, on veut quand même adresser à cette question-là. Et je comprends que tu passes chez Joe Rogan, qui lui-même est passionné par le sujet.
Ouais.
C'était inévitable là, que le président Trump allait aborder cette question-là. Ici, il y a plusieurs éléments qui doivent être retenus. Quand on regarde ce qu'il est dit, d'abord, ce n'est pas la première fois que Donald Trump doit faire face à cette question. Lorsqu'il était président, lors de sa première présidence, il faut se rappeler qu'aux États-Unis, ça a été, appelons ça, là, pour le besoin de notre discussion de ce soir, appelons ça le scandale des ovnis. Hein, c'est-à-dire que le New York Times, en 2017, alors que le président Trump est à la Maison-Blanche...
De 2016 à 2020, et ça se passe en 2017.
Voilà. Donc, en 2017, le New York Times publie un article en disant « Ah, le gouvernement américain, contrairement à ce qu'il nous a dit, s'est quand même intéressé en coulisses au phénomène des ovnis. » Et le même New York Times publie sur son site Internet des fameuses images que tout le monde a vues, là, ces fameuses images en noir et blanc, là, qui sont en fait des images infrarouges où on voit une forme un peu devant un écran qui aurait été tournée par des pilotes de la US Navy en 2014 et en 2014, fin 2014, début 2015 et en 2004 pour les premières, un incident qu'on a appelé l'affaire de l'OVNI Tic Tac qui s'est produite au large de San Diego en 2004.
Oui.
Donc, ces histoires-là sortent. Il y a un regain d'intérêt dans la presse à propos de cette histoire des ovnis, hein, et ça remonte jusqu'au Congrès américain. Et à ce moment-là, Donald Trump a été questionné à ce propos-là. Et il a répondu de manière assez nonchalante. Hein. Il a dit, oui, j'ai été briefé, j'y crois pas trop, c'est du n'importe quoi, mais bon, j'ai été briefé. Mais il va pas plus loin. Hein. Il dit simplement qu'on l'a briefé à ce sujet-là, et ça s'arrête là. Là, alors qu'il est chez Joe Rogan en octobre dernier, hein, il répète encore que c'est pas un sujet qui l'intéresse. Hein, il le dit à deux fois dans l'entrevue, qu'il n'est pas attiré par ce sujet-là, qu'il a parlé avec des gens qui ont raconté des histoires extraordinaires. Et là, il dit, il laisse sous-entendre à Joe Rogan que s'il est élu à la présidence des États-Unis, il va rendre publique l'information sur les ovnis. Et dans un même souffle, il ajoute qu'il est quand même le président américain qui a rendu public les dossiers confidentiels sur JFK durant son premier mandat. Bon, là, ici, deux choses qui m'ont fait sourire.
Okay.
D'abord, c'est pas Donald Trump qui a rendu public les dossiers sur JFK. Hein. C'est, en fait, n'importe quel président qui aurait été au pouvoir en 2017 aurait dû rendre public les dossiers sur JFK.
Parce
c'était inscrit dans la loi.
Avec les archives, hein? OK. C'est ça.
Voilà, bon, voilà. Donc, c'était une date de tombée, puis ça donne que c'est Donald Trump qui était là, mais ça aurait été n'importe qui, ça aurait été la même chose.
Ah, il a pris le crédit quand même.
Voilà, fait, donc il prend le crédit, donc c'est une demi-vérité, là, parce qu'en fait, ce qui s'est produit, en réalité, les archives sur l'assassinat de JFK avaient été classées, bon, certaines avaient été rendues publiques, mais il y avait de très nombreux dossiers qui avaient été placés confidentiels et qui devaient être révélés aux alentours de 2045. Et en partie, une grande partie de cette réserve-là était une demande de Jackie Onassis Kennedy, là, qui avait demandé ça, donc l'épouse de JFK au moment des faits. Donc, les documents devaient être révélés en 2045. En fait, ça devait commencer un peu plus tôt, le 2041 jusqu'à 2045. Et puis, il y a eu la sortie du film en 1991, JFK, de Oliver Stone, qui développe principalement la théorie du complot. Oliver Stone, dans son film, qui est un très mauvais film historique, je le dis tout de suite, là. Je comprends que les historiens, quand ils ont vu ce film-là, ils ont dit « Oliver Stone ne présente pas », parce qu'Oliver Stone, lorsqu'il a été critiqué, il dit « Ben moi, j'ai présenté une version de l'histoire ». Les historiens ont répondu « Non, il ne présente pas une version de l'histoire ».
Sa version.
Il réécrit l'histoire. C'est pas comme ça que ça s'est passé, là. C'est une version revue, corrigée et réécrite.
Okay.
Et Oliver Stone, il reste encore aujourd'hui persuadé du complot visant l'assassinat de JFK. Mais il y a eu un bon côté à la sortie du film. Lorsque le film sort au cinéma en 1991, on est quand même une génération plus tard, après l'assassinat de JFK. Donc, il y a toute une génération de jeunes qui n'étaient pas là en 1963 ou trop jeunes lorsque le président Kennedy a été abattu. Et l'affaire est un peu passée dans le langage populaire. On parle des théories du complot, on dit « ouais, JFK », mais qui n'était pas nécessairement au courant des détails. Et puis, il se retrouve devant le film, confronté à une version qui est quand même un peu une parodie de l'histoire, où on voit un complot être orchestré, ourdi par toutes sortes de gens pour abattre le président Kennedy. Et ça a eu une réaction des gens, principalement des jeunes, comme je dis, une nouvelle génération, qui ont vu ça et ont dit « Hey, c'est pas comme ça qu'on nous l'avait raconté, c'est pas comme ça que mes parents me l'ont raconté, est-ce qu'on nous cache des choses ?» Et il y a eu un regain d'intérêt pour l'assassinat de JFK, et ces gens-là ont fait pression sur le Congrès américain, aux archives nationales, pour avoir accès plus rapidement au dossier. Et là, il y a c'était Bill Clinton à l'époque qui était à la présidence au moment de la sortie du film de Stone. Et finalement, Bill Clinton a signé un acte en disant, ben, OK, après discussion avec les différentes agences impliquées et également la famille Kennedy, on est arrivé à la conclusion qu'on allait devancer la publication des dossiers et que cette publication-là aurait lieu en 2017.
Évidemment, quel hasard!
Bill Clinton. C'est ça, Bill Clinton, en 1991-92, il pouvait pas imaginer que ce serait Donald Trump qui serait à la présidence en 2017. Mais c'était la loi. Donc, Donald Trump n'a strictement rien à voir avec la publication des dossiers sur JFK, même s'il s'attribue le mérite. La seule chose qu'il a eu à faire... il l'a assez bien fait, faut quand même le dire. Moi, je suis pas un partisan de Donald Trump, mais il a quand même bien géré l'affaire. Lorsqu'il a demandé la publication des dossiers, on avait demandé cette nouvelle résolution pour la publication des dossiers en 2017 mentionnait que si des organismes souhaitaient ne pas rendre public leurs dossiers, ben ce n'était pas ils devaient le justifier, pas simplement dire je ne veux pas, ils devaient présenter devant un juge des documents qui permettaient de conserver le secret autour de ces documents. Et ça, Donald Trump a exigé que ce soit fait, et grâce encore une fois, il a simplement appliqué la loi. Il aurait pu être plus laxiste, ce qu'il n'a pas fait. Il a quand même appliqué correctement la loi. Et les organismes, plusieurs organismes, la CIA, la NSA, qui ont demandé à ce que certains documents ne soient pas rendus publics. Et je te dirais que 90% de leurs demandes ont été rejetées. Donc, au moment où on se parle aujourd'hui, en 2025, il y a à peu près un millier de pages de documents qui restent encore classés top secret. Mais il y en a plus de 5 millions qui ont été rendus publics. Et dans les 5 millions qui ont été rendus publics, aucune d'entre elles ne permet de croire à une théorie du complot. Okay. On a découvert, en fait, que les documents que la CIA ou la NSA ne souhaitaient pas voir être publiés, c'est, en fait, c'était des documents qui, par la bande, évoquaient d'autres agissements ou d'autres actions des services de renseignement. Par exemple, on disait qu'on avait suivi à un moment donné Lee Harvey Oswald parce qu'on croyait qu'il était une taupe pour l'ancienne Union soviétique et on avait peur éventuellement qu'il soit au courant d'un projet qu'on appelait le projet Mangouste, et le projet Mangouste visait à assassiner Fidel Castro. Hey. Donc, tu comprends ce document... Ouais,
ouais. Oh, oui, oui.
Donc, ce document-là, c'est vrai qu'on parlait d'Oswald, c'est vrai qu'il était lié à l'affaire Kennedy, mais en fait, l'information que souhaitait garder secrète la NSA ou la CIA, ça avait vraiment rien à voir avec l'assassinat du président de Lee Harvey Oswald. En fait, ce qu'on voulait dissimuler, c'est qu'à la même époque, il y avait un plan qui était ourdi par les services de renseignement pour abattre Fidel Castro. Oh, donc, ouais. C'est ça qu'on voulait cacher. Donc, mais bref, ces documents-là, je voulais simplement relativiser cet élément-là en disant, ben là, bon, même si Donald Trump se prend le mérite de ça, c'est pas vraiment lui qui l'a fait. Et ici, il y a une grosse différence, hein, parce que là, on se dit, ben, s'il le fait avec JFK, il pourrait peut-être le faire avec les ovnis. Ici, il y a une énorme différence. D'abord, pour pouvoir rendre public des dossiers sur les ovnis, il faudrait d'abord démontrer que ces dossiers-là existent.
Okay.
Et contrairement à JFK, dans le cas de JFK, il n'y avait pas de doute qu'il y avait des milliers de pages de documents et les services de renseignement ne s'en cachaient pas. Là. La CIA, le FBI et tout le reste disaient « on a des dossiers sur JFK, mais on ne peut pas les rendre publics pour X ou Y raison. » Donc, on n'avait jamais caché l'existence de ces fameux dossiers. Alors que là, lorsque les gens spéculent et Donald Trump qui laisse croire un peu à Joe Rogan qui va peut-être rendre public de l'information sur les ovnis, ben à mon avis, c'est un peu du vent parce que jusqu'à maintenant, malgré ce que nous disent un peu des sonneurs d'alerte, il y en a encore un qui est sorti il y a quelques jours avec une histoire aberrante dont on aura l'occasion de se reparler la semaine prochaine, hein, parce que ce sera on revient à notre émission sur les ovnis.
Oui.
Donc, je t'en parlerai plus longuement la semaine prochaine. Mais bon, mis à part ce que nous disent un peu ces sonneurs d'alerte en disant « Ah oui, il y a des programmes secrets, oui, on a vu ci, on a vu ça », La réaction est toujours la même de la part des autorités. Le Pentagone dit « on a fait des recherches, ces dossiers-là n'existent pas, il n'y a pas de documents, il n'y a rien là-dessus ». Et c'est même son de cloche du côté de la NSA, le FBI et tout le reste. Ces dossiers-là n'existent pas. Donc, contrairement à l'affaire Kennedy, où les agences de renseignement disaient qu'ils avaient des dossiers, mais qu'ils ne pouvaient pas les rendre publics, dans le cas des ovnis, là, c'est plutôt l'inverse. C'est que les autorités disent « on n'en a pas de dossiers ». Donc, Donald Trump peut beau dire « je vais rendre public des dossiers », encore faut-il que ces dossiers-là existent. Et en dehors du discours tenu par ce que moi j'appelle la clique des soucoupes volantes, bon, on n'a pas la preuve que ces documents-là existent. Et tous les documents, et il y a quand même au fil des ans de très nombreux documents sur les ovnis qui ont été rendus publics.
Des rapports, le congrès...
Oui, et quand ces dossiers-là ont été rendus publics, les autorités reconnaissaient qu'ils les avaient, ces dossiers-là. Hein. Par exemple, on a un long affidavit qui date de la fin des années... qui avait été rendu public dans les années 90, où la NSA reconnaissait qu'elle avait des centaines de documents sur les ovnis, mais qu'elle ne pouvait pas les rendre publics. Puis bon, aujourd'hui, ces documents-là le sont publics. Mais donc, à une époque, les autorités reconnaissaient qu'elles avaient des dossiers sur les ovnis, mais au fil du temps, ces dossiers-là ont été rendus publics. Et aujourd'hui, quand on parle de rétro-ingénierie, de soucoupes volantes cachées dans la zone 51, d'extraterrestres qui enlèvent des humains ou mutilent des vaches, ben, les autorités disent... eux disent on se bat beau discours-là, mais les autorités disent non, on n'a rien trouvé là-dessus. Et tout récemment, lors de la dernière audition au Congrès, hein, qui a eu lieu l'automne dernier... Le nouvel organisme étatique du département de la Défense, LARO, hein, qui veut dire Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines, on dit... On a écouté ce que les sonneurs d'alerte ont dit. Les sonneurs d'alerte ont évoqué qu'il y aurait eu dans les années, à partir des années 40, même à la fin des années 30, des programmes de rétro-ingénierie. La rétro-ingénierie, c'est de prendre un objet, le déconstruire pour voir comment il fonctionne et de savoir qu'est-ce qu'on peut tirer de cette technologie.
Ouais.
Donc, il dit, les sonneurs d'alerte ont parlé de programmes de rétro-ingénierie sur des engins d'origine extraterrestre, de récupération d'OVNI, etc. Et malgré nos recherches intensives dans les archives, on n'a jamais rien trouvé qui va dans ce sens-là. Donc, attendons, mais ceux qui croient que Donald Trump va rendre public des dossiers fantastiques sur les ovnis, Ben moi, je dis qu'on risque d'attendre encore longtemps parce que rien ne permet de croire que ces dossiers-là existent. Et je pense que Donald Trump, qui est un fin manipulateur, sait très, très bien comment s'adresser à son électorat pour attirer des votes, comme le font de très, très bons habiles politiciens.
Ouais.
Et Donald Trump est un habile politicien, n'ayons pas peur des mots. Donc,
Pour le moment, c'est ça la question, à quoi s'attendre à des révélations ou la grande révélation avec un grand R pour les ovnis?
Ça.
Peut-être pas tout de suite, hein?
Non, moi d'ailleurs, je m'amuse toujours à dire, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet des ovnis, c'était au milieu des années 70, on était en 1976. Et quand j'ai rejoint la première association ufologique de ce temps-là, hein, qui s'intéressait, on appelait ça des soucoupes volantes à l'époque, la première chose qu'on me dit en rentrant, c'est qu'on me donnait une tape dans le dos, on me dit « Bienvenue Christian, la révélation est pour bientôt
».
Et aujourd'hui, pratiquement 50 ans plus tard, je suis encore ici à attendre cette fameuse révélation.
Effectivement, donc, ça va faire 50 ans en 2026.
Oui, exactement. Donc, attendons, mais je pense que la grande révélation sur les ovnis, il faudrait d'abord commencer, ne pas mettre la charrue avant les bœufs et démontrer dans un premier temps qu'il y a bel et bien au sein des diverses agences de renseignement aux États-Unis des dossiers qui sont gardés top secret sur les ovnis. Et à partir de là, on pourrait espérer qu'un président, que ce soit Donald Trump ou les présidents qui le suivront, feront leur maximum pour rendre public l'information. Parce que si on veut avoir une vision claire de ce phénomène, qu'il soit d'origine extraterrestre ou non, ben il faut avoir accès aux documents. Sinon, on ne fait que spéculer dans le vide. Et pour l'instant, il faut toujours se rappeler que c'est ceux qui font l'affirmation qui ont le mandat de prouver leur point. Hein. Ça, c'est bien beau que tu me dis qu'on a un extraterrestre. À toi de me prouver qu'on a un extraterrestre. Moi, je n'ai pas à te prouver qu'on n'a pas d'extraterrestre. Et jusqu'à maintenant, ceux qui font ces affirmations-là n'ont jamais apporté. Il faut quand même le préciser. Hein. Ça fait 80 ans, si on considère là, l'ère moderne des ovnis, c'est 80 ans, c'est immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale que le phénomène commence à être médiatisé, même si on peut trouver des observations qui sont antérieures. Et si on se donne un peu d'effort, on va même en trouver dans l'Égypte antique, dans les chroniques de Sumer et autres. Là.
Ouais.
Mais si on regarde l'ère moderne des ovnis, ça apparaît au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et malgré les années écoulées, on est en 2024, jamais personne n'a apporté la moindre preuve que nous soyons visités par des extraterrestres. Cette preuve-là, elle est essentiellement testimoniale. Ce sont des gens qui racontent des histoires. Et quand j'entends les ufologues me dire « nous enquêtons sur les ovnis », je réponds toujours « non, vous enquêtez sur des observations rapportées, des témoignages
c'est
sur
ça.
Les ovnis, mais pas sur les ovnis. »
C'est pas leur
parce que des
encore.
Ovnis, ouais, jusqu'à maintenant, des ovnis, on n'en a pas eu. On n'en a jamais eu sous la main à étudier. Donc voilà, et ben écoute, c'était ma réaction à cette première question. Faut-il s'attendre à des révélations de Trump? Ben je dis, mettons un bémol et soyons patients. Et si tu veux, on va passer à la pause.
Bien
et
sûr.
Ensuite, on revient avec une autre question qui, elle, a suscité beaucoup d'intérêt chez les gens en décembre dernier. Je t'explique pourquoi.
Radio X-Files. Execute program. Avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission Radio X-Files, Christian, tu m'as teasé le sujet avant la pause pour les auditeurs. Une question qui a suscité l'intérêt en décembre. Est-ce que c'est parce qu'on parle de son mois de naissance pour le tombeau de Jésus?
Tu as tout à fait raison. Donc, comme c'est chaque année, quand arrive le mois de décembre, juste avant la période de Noël, on a le droit un peu comme à Pâques, hein? On présente les films Jésus, la Nativité et tout le reste. Et le réseau Planète Plus, qui est un excellent réseau qui présente des documentaires, en ont présenté un qui s'intitulait « Jésus, le secret d'une famille cachée ». Et il a été notamment question de l'évangile de la femme de Jésus. Bon, là, j'ai dit tout de suite aux éditeurs, « Déchirez pas votre chemise, ce document-là, il est faux hein? ».
Okay.
Donc, parce que bon, l'émission tournait surtout autour d'un petit document, un papyrus qu'on a trouvé, qui a été présenté, là, qui est apparu en fait dans le milieu des discussions scientifiques spécialisées notamment dans l'archéologie biblique. Le document est apparu au début des années 2010, présenté par il était présenté par une femme qui s'appelle Karen King, qui n'est pas n'importe qui. Elle est professeure à l'Université d'Harvard et elle est spécialisée dans l'histoire du christianisme, et notamment le christianisme ancien. Donc, elle présente ce document. Elle l'a obtenu, par différentes personnes interposées. C'est un tout petit document qui compte à peu près 6 ou 7 lignes, une trentaine de mots. Et à un moment où, au milieu du document, il y a ce passage. Hein. C'est un document qui est écrit en copte. Et là, c'est un document qui daterait du 4e ou 5e siècle. Parce qu'il faut se rappeler qu'on n'a aucun document de la Bible originale. Ouais. On n'en a aucun. Hein. Les premiers documents, on en a de très anciens. Là. Mais on a le document le plus complet là, pour l'ensemble des textes du Nouveau Testament, c'est le Codex de Leningrad qui apparaît là, au Moyen Âge. Et on a d'autres fragments de textes. Les plus anciens que l'on a, je vais donner cette information-là, c'est un peu ce qui rend extraordinaire cette découverte, c'est la découverte des textes de Qumran, hein, les textes de la mer morte. Hein, quand on parle dans l'archéologie, souvent on entend ça, ah oui, les textes de la mer morte. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont de spectaculaire, les textes de la mer morte? Tu sais, ce sont des textes qui contiennent en partie des éléments de l'Ancien et du Nouveau Testament, et ce sont les plus anciennes copies que l'on a. Toutes les autres copies que l'on a, ce sont des écrits qui sont plus tardifs. Donc, cela étant dit, il y a ce petit document qui apparaît, 5e, 6e siècle à peu près. C'est un petit bout de parchemin écrit en copte, et au milieu du texte, il est écrit « Et Jésus dit, hein, en s'adressant aux apôtres, et Jésus dit, ma femme ». Hein, désignant visiblement quelqu'un. Donc, cette femme-là, on peut spéculer, mais bon...
Qui est-elle?
Qui est-elle? On se doute bien qu'il doit s'agir de Marie-Madeleine, hein, parce qu'on a les textes canoniques. Je ne vais pas refaire... Je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire, parce que ça me passionne. Je pourrais t'en parler pendant des heures et des heures. C'est une de mes grandes passions, l'archéologie biblique. Mais il faut savoir que... Je vais essayer tout de suite de briser ici un mythe. On a des textes qui sont les textes qui sont la Bible canonique, donc la Bible qu'on achète au magasin, qu'on a chez soi, qu'on utilise à l'église. Et il y a d'autres textes qu'on appelle les textes apocryphes ou les évangiles gnostiques. Et quand on dit apocryphes, il y a toute une gang de zigotos qui connaissent rien à l'histoire, qui essaient de nous faire croire que ce sont des textes cachés, puis que l'Église ne veut pas ça, puis que l'Église ne les a pas introduits dans la Bible parce qu'il y a des choses à cacher.
Alors, c'est des textes alternatifs avec des gros guillemets.
Oui, ce sont des textes alternatifs. Et il faut savoir que le mandat des textes canoniques, là, hein, quand on a décidé là, qu'est-ce que serait la Bible canonique, il faut remonter au 4e siècle. Il y a eu un concile qu'on a appelé le concile de Nicée. Encore une fois, je ne veux pas donner un cours d'histoire, là,
mais c'est fascinant.
Il y a eu ce concile de Nicée. Et les gens qui étaient là, des évêques de l'Église naissante du christianisme, c'est une Église qui était jeune, on a décidé de choisir des textes. Et pourquoi les textes canoniques par rapport aux autres, parce que ces textes-là sont les textes qui sont fondamentaux, ce sont les textes du fondement de la foi chrétienne. Donc, de rajouter un texte pour dire que Jésus se brossait les dents de 8h à 9h, ça apporte rien, ça. Ça change rien dans la foi chrétienne, tu comprends-tu? Donc, on a choisi des textes qui étaient forts, des textes qui c'était des textes qu'on dit, pour utiliser le langage des experts, ce sont des textes catéchisés. Ce sont des textes qui ont été écrits pour à rendre gloire de Dieu, rendre gloire à la grandeur du Christ et à tout son message. Le reste, là, c'est pas vrai. L'Église ne les a pas introduits parce qu'elle veut cacher des affaires. C'est rien que ça ajoute rien. Si demain matin, on devait trouver des documents qui serait extraordinaire et qui viendrait ajouter des éléments au message chrétien, ben peut-être que l'Église rouvrirait à nouveau les canons pour les ajouter. Mais pour l'instant, tous les autres textes, ils sont disponibles, les gens peuvent les lire. Moi, j'ai rencontré plein de gens dans le milieu religieux, des prêtres, des évêques, qui encouragent les gens à les lire, les textes gnostiques, hein, l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Philippe, etc. Mais ce sont des textes qui, comme tu le dis, qui sont un peu alternatifs. On apprend des affaires un peu amusantes. Hein. Jésus, quand il avait 10 ans à l'école, il s'est choqué contre ses petits amis, puis il les a tous tués, hein, puis il s'est choqué.
Ah, mais c'est quand même intéressant, ça. Pourquoi on l'a mis de côté, lui?
Ouais, puis une autre fois, son père le cherchait, puis là, il l'a trouvé, il était sur le bord d'un petit lac, là. Puis là, il a fait un oiseau en argile, il a soufflé dessus, puis l'oiseau s'est envolé en argile.
Wow.
Tu sais, c'est des petites affaires, c'est amusant, c'est anecdotique, il n'y a rien de secret là-dedans, mais ça ajoute rien au message. C'est pourquoi on ne les a pas utilisés, ces textes diagnostiques.
Mais l'aspect de la femme de Jésus, on jugeait qu'elle n'était pas importante ou elle n'a juste jamais existé? Moi, je pensais que Jésus était vieux garçon, là.
Oui, c'est ça. Donc, ce texte-là apparaît. Hein, on est aux alentours des années 2010 à peu près, lorsque le texte apparaît, qui est présenté par Karen King. Et évidemment, ça, c'est très choquant. Si ce document-là est authentique, évidemment, là, ici, il y a de quoi se questionner sur les dogmes et sur, justement, l'aspect du canon de l'Église. Parce que dans le canon de l'Église, on se dit, Jésus est célibataire, il n'y a pas d'épouse. Et là, de quoi on vient de changer la donne? Ça, c'est un document qui serait suffisamment important s'il était authentique pour forcer la réouverture des canons de l'Église. Mais le document, bon, il y a eu des analyses qui ont été faites sur le papier. Le papier semblait être de la bonne époque. L'encre semblait également de la bonne époque. Mais éventuellement, quand on a regardé le passé de l'individu finalement qui avait remis le document à Karen King, quand on a regardé comment l'écriture était faite, il y avait des erreurs, il y avait des fautes d'orthographe. Hein, c'est un texte qui est écrit en copte que les gens de l'époque n'auraient pas commis. Même Karen King aujourd'hui reconnaît. Puis c'est triste parce que ça nuit sérieusement à ta carrière. Et elle avait une carrière qui était impeccable, mais elle-même reconnaît qu'elle a été dupée par un faussaire, qu'elle s'est peut-être beaucoup impliquée dans l'histoire de ce document-là, mais qui aujourd'hui est très certainement une fraude. Et bien sûr, ça apparaît dans son CV comme une grosse tâche. Hein. Pendant des années, pendant 3 ou 4 ans, elle a défendu l'authenticité de ce qu'on a appelé l'évangile de la femme de Jésus. Qui n'était pas vraiment un évangile, c'est un petit bout un petit morceau de papyrus. Bon, cela étant dit, je voulais empêcher les gens de déchirer les chemises. Donc, mais bon, dans le document, un des éléments sur lesquels on a beaucoup focalisé, c'est on a trouvé, puis à l'époque, je me rappelle, il y a quelques années, à la sortie de mon livre, à la recherche des reliques saintes, j'en avais parlé avec Marceau, on a trouvé en banlieue de Jérusalem une tombe en 1980 dans un quartier qui s'appelle le quartier de Talpiot. Et dans le quartier de Talpiot, donc c'est une tombe souterraine, on appelle ça un hypogée. Et la façon dont les Juifs du 1er siècle enterraient leurs morts, puis je pense qu'on en a parlé ensemble à une ou deux occasions, il y avait cette espèce de caverne souterraine, hein, c'était la norme, il y avait une caverne souterraine. On plaçait les corps des défunts. On les laissait là pendant une année dans un linceul. On laissait le corps se décomposer et un an après, on retournait à l'intérieur de l'hypogée, de cette fameuse caverne. Et les corps étaient placés, les ossements, hein, parce que le corps était complètement disparu, les chairs avaient disparu, on plaçait les ossements dans une petite boîte qu'on appelait l'ossuaire, une petite boîte en plâtre ou en argile, ou peu importe. Et cette petite boîte était déposée dans une niche qui était creusée dans le mur, hein, ce sont les loculi, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, et ils ont placé les petites boîtes. Donc en 1980, alors qu'on construit un complexe immobilier dans le quartier de Talpiot, les gens, les ouvriers vont découvrir un tombeau sous la terre. C'est le fameux tombeau, on entre à l'intérieur et là on va trouver dans les loculi, on va trouver 10 ossuaires. Sur ces 10 ossuaires, il y en a 4 qui sont anonymes, mais il y en a 6 qui ont des noms gravés sur l'ossuaire. Et ces noms, il y en a un, c'est Jésus, fils de Joseph, un autre qui est Marie, un autre qui est Matthieu, un autre qui est Judas, fils de Jésus, un autre qui est Marie-Amenée ou Marie-Madeleine.
Donc, la famille au complet, ensemble.
Ta famille au complet. Fait que là, évidemment, ça peut paraître surprenant. Et là, il y a un archéologue amateur qui n'est pas un vrai archéologue, je tiens à le préciser, un type qui s'appelle Simcha Jacobovici, qui est un Canadien, qui va s'associer à James Cameron pour faire un documentaire qui va être produit, un livre et un documentaire qui sort en 2007, qui s'appelle « La tombe de Jésus ». Et là, bien évidemment, pour eux, cette tombe-là, c'est celle de Jésus et de sa famille proche. Et là, Jacobovici va jusqu'à dire qu'en prenant de l'ADN, en grattant l'ADN de la boîte qui contenait les ossements de Marie-Amenée ou Marie-Madeleine, et en grattant la boîte de celle qui disait Jésus, ben, il voit que ces deux personnes-là n'avaient pas de lien de parenté. Donc, pour Jacobovici, il s'agit clairement de Jésus et de son épouse Marie-Madeleine. Pouette.
Là, dans le documentaire, quel point ça pouvait être véridique, donc, ça, le ADN?
Voilà. Donc, dans le documentaire de décembre qui a été présenté à Planète Plus, je comprends que des gens ont vu ça et ont dit « Hey, tabarnouche, c'est fantastique. » Puis de la façon dont c'est présenté, ça a l'air très convaincant. Mais c'est de la fumisterie. C'est de la fumisterie pour plusieurs raisons, puis je ne veux pas prendre trop de temps parce que je vois que le temps file, mais c'est tellement fascinant. D'abord, il faut savoir que quand Jacobovici dit « J'ai fait des analyses ADN », il n'a retrouvé que de l'ADN MT. L'ADN MT, c'est moins précis que de l'ADN nucléique. Et la seule chose que l'ADN MT peut dire, c'est que la personne dans la boîte numéro 1 était une femme, puis dans la boîte numéro 2 était un homme.
Ah ouais,
c'est à peu près
plus
loin que tu peux aller. Donc le reste est un peu spéculatif. Ensuite, Jacobovici, quand il dit s'il n'y a pas de lien entre la boîte qui contient les ossements du dit Jésus et la boîte qui contient les ossements de la dite Marie-Madeleine, c'est parce que forcément, ils sont époux et épouses. Là, tu joues les cupidons, là, mon ami Jacobovici,
oui.
Parce que c'est pas ça que ça te dit, là. D'abord, je les ai vus, moi. Hein, je suis allé à Jérusalem, je les ai eus entre les mains, ces fameuses ossuaires-là. Dans mon livre, d'ailleurs, À la recherche des reliques saintes, on voit la tombe de Talpiot, où je suis allé, on me voit également avec les ossuaires. D'abord, le nom de Marie-Amnée, ça, c'est de la foutaise. Ça. C'est pas ça qu'on lit partout sur le... Ça, faut vraiment que tu fasses preuve d'imagination. Avec la même imagination, tu peux lire Batman, Superman, Batgirl. Tu vas lire ce que tu veux sur cette boîte-là.
Okay.
Ensuite de ça, hein, quand ils disent le fait qu'ils n'ont pas de lien entre eux, c'est forcément qu'ils sont mari et femme. Pas vraiment. Il faut se rappeler que dans le fameux tombeau en question, il y avait 10 ossuaires, dont 4 étaient anonymes. Alors, qu'est-ce qui prouve que Jésus n'était pas l'époux d'une autre des femmes qui étaient dans les boîtes anonymes? Qu'est-ce qui fait que Marie-Amnée, hein, qui devait être Marie-Madeleine, le fait qu'elle n'a pas de lien avec Jésus ne prouve pas que c'était sa femme? C'était peut-être la femme de l'autre, celui qui s'appelle Matthieu ou Judas, fils de Jésus. Si elle était l'épouse de Judas, fils de Jésus, donc elle n'était pas l'épouse de Jésus, elle était simplement sa belle-fille. T'sais, tu comprends? C'est du grand n'importe.
Il n'y a pas de généalogie qui venait avec les boîtes.
Tu es en train de te moquer des gens. Là. C'est ridicule. Et ensuite, pourquoi que cette histoire-là ne tient pas la route? Puis ça, c'est peut-être l'argument le plus simple. Quand les archéologues... Jacobovici, d'ailleurs, quand tu vas au dépôt des antiquités israéliennes où je suis allé, où sont gardées ces fameuses boîtes-là, je peux te dire que les archéologues là-bas n'apprécient pas trop Jacobovici parce qu'avec son documentaire et son livre, il a fait passer les archéologues israéliens comme étant des imbéciles qui n'avaient pas vu, qui avaient découvert la tombe de Jésus. Alors que les archéologues israéliens connaissent bien leur pays, connaissent bien leur histoire, puis connaissent bien les subtilités de leur histoire. Et ça les a très choqués. Et ce qu'on m'expliquait, par exemple, c'est que les gens étaient enterrés dans leur ville où ils ont grandi. Donc, si Jésus, d'ailleurs, on le voit dans les textes canoniques, hein, quand on parle de Jésus, souvent on le présente comme le Nazaréen. Hein, Jésus a grandi à Nazareth. Même s'il aurait été crucifié à Jérusalem, il aurait été forcément enterré à Nazareth. Si pour une raison X ou Y, parce qu'on va là, Jacobovici dit oui, mais c'était le sabbat, puis il fallait l'enterrer avant. OK, parfait. Mais si on avait fait ça, hein, quand tu regardes dans la Bible, le lien de la filiation du lieu est plus importante que la filiation familiale. Quand tu regardes, par exemple, tu lis le Nouveau Testament, on nous dit, par exemple, quand Jésus sort du prétoire avec la croix sur les épaules, en fait, c'est le patibulum qu'il a, on nous dit, un Romain a arrêté un homme qui passait par là, qui était Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, ça veut dire un Simon qui vient du village de Cyrène. Quand on parle de Marie-Madeleine, ça c'est une contraction Marie-Madeleine, mais ce que ça veut dire, Marie-Madeleine, en fait son vrai nom c'est Marie de Magdala. Magdala okay. étant la ville d'où elle vient. L'homme qui va donner son tombeau à Jésus, c'est Joseph d'Arimathie. C'est un Joseph qui vient de la ville d'Arimathie. Donc à cette époque, en raison des recensements, la filiation des lieux était très importante. Alors, quelle que soit la raison pour laquelle le Jésus des évangiles aurait été, ou le Jésus de l'histoire, aurait été enterré à Jérusalem, jamais on n'aurait marqué sur son ossuaire « Jésus, fils de Joseph », mais on aurait marqué « Jésus de Nazareth ». Hein? Qu'il soit le fils de Joseph, on n'en a rien à cirer. Alors, si on a mis un Jésus, fils de Joseph, il faut lire plus loin, ça veut dire Jésus, fils de Joseph de Jérusalem. C'est ça que ça veut dire. Et passer outre ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle.
Okay.
Et Simca Jacobovici joue sur cette carte-là. Et malheureusement, je sais que ça va peut-être en décevoir quelques auditeurs, mais non. La tombe de Talpiot n'est pas la tombe de la famille de Jésus de Nazareth. Donc, même si... Puis, il faut quand même se dire aussi que même si on trouve des noms qui sont propres aux évangiles, hein, Marie, Marie-Madeleine, Joseph, Jésus, il faut savoir que si à cette époque, tu t'étais promené dans un marché public, puis tu te serais écrié Yeshua, hein, c'était le nom de Jésus en arabe,
ouais.
Pas en arabe, en En hébreu.
En hébreu,
donc,
ouais.
Si t'aurais lancé comme ça, t'aurais lancé « Hey, Yeshua », ben, il y a 25 personnes qui se seraient virées de bord.
Comme
hein?
Les Éric, grillé... comme les
ouais,
Julie, t'sais, on t'sais, peut en nommer plein
ouais,
au Québec.
Oui, tu t'en vas dans un lieu public, tu dis « Hey, Sylvie, et tabarnouche, on en aura 25 au service. » À l'époque de Jésus, des noms comme Joseph, Marie, Jésus, Matthieu, Judas, c'était des noms qui étaient excessivement courants. Ça peut faire sourire d'en trouver quelques-uns comme ça dans un même tombeau, mais ça n'a rien à voir avec la famille de Jésus. Et ça, il faut quand même le dire. Je comprends que les gens qui connaissaient pas cette histoire, qui ont regardé le documentaire à Planète Plus, ont pu être surpris parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'on avait fait cette découverte en 1980. Mais si on n'en a pas parlé ou que l'affaire a été gardée sous silence, c'est pas une volonté de l'Église, c'est pas parce qu'on a conspiré, c'est parce que ça n'a aucune signification. Ce n'est simplement qu'une question de coïncidence qu'on retrouve sur 6 des ossuaires qui sont dans le tombeau. On retrouve des noms qui sont plus ou moins familiers, qui ne sont plus familiers avec les noms qu'on retrouve dans le Nouveau Testament.
Donc, encore une fois, on ne sera pas dans les grandes révélations ce soir, Christian. On ne fera pas l'histoire, on ne réécrira pas l'histoire ensemble, que ce soit pour les ovnis ou le tombeau de Jésus. Effectivement, c'est pouet-pouet. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si on a le temps de se lancer honnêtement dans une des grandes questions. Je peux te laisser choisir ou sinon...
Oui, je t'en lance une rapide. Hein? Des gens m'ont écrit et me disent « Est-ce que c'est moi ou est-ce que j'ai l'impression qu'on parle moins de paranormal ces jours-ci? » Ces dernières années, etc. Et non, ils n'ont pas... Et est-ce que la science est en train de tuer le paranormal? Poser la question, c'est un peu y répondre. Oui, ce n'est pas une impression. On parle moins de paranormal dans les publications sérieuses. Pourquoi? Okay. Parce que le paranormal... Puis oui, le paranormal, la science est en train de tuer le paranormal, okay. Parce que le paranormal, c'est un peu comme une enquête policière. Hein? Quand on parle des grandes énigmes, les grandes énigmes criminelles, puis on le sait, on fait radio Suspect X ensemble,
oui.
Les grandes affaires criminelles, hein, les Jack l'Éventreur, le Zodiac, le tueur à la hache de la Nouvelle-Orléans, ce sont des affaires criminelles qui datent d'une certaine époque, hein, qui nous renvoient des décennies en arrière. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de cold case. Pourquoi? Parce que la science a des outils beaucoup plus raffinés pour pouvoir arrêter ces gens-là. Et c'est pas parce qu'il y a... Aujourd'hui, par exemple, imaginez un tueur en série qui ferait 30 victimes comme John Wayne Gacy dans les années 70 est quasi invraisemblable. C'est pas si le nombre de tueurs en série diminue aujourd'hui, c'est pas parce que les psychopathes assassins n'existent pas ou n'existent plus.
On est juste
c'est simplement qu'on les a... on est capable de les arrêter plus rapidement.
Ouais.
Et c'est un peu la même chose. Hein? Les grandes énigmes, c'est pour ça quand on parle, ah ouais, l'énigme de telle énigme ou telle histoire de fantôme, elle semble remonter à plusieurs années, possession diabolique. Oui, parce que les outils de la science font que ces énigmes-là sont demeurées inexpliquées à leur époque parce qu'on n'avait peut-être pas les outils. Aujourd'hui, si quelqu'un, par exemple, présentait des symptômes d'une possession diabolique ou si on se retrouvait en présence d'un phénomène de fantôme ou de poltergeist extraordinaire, ben je pense qu'on a des outils qui sont tout à fait raffinés qui permettraient de résoudre un très grand nombre de ces histoires-là. Donc, elles demeuraient très momentanément inexpliquées avant d'être expliquées. Or, c'est pourquoi plus ça va aller, plus les années vont s'écouler, plus on va avoir de meilleurs outils pour approcher ces phénomènes, de moins en moins d'entre eux vont demeurer inexpliqués.
Un essoufflement un peu. Puis c'est vrai que même au cinéma, les activités paranormales, les films de paranormal, ça a perdu en vitesse aussi.
Oui. Puis en fait, moi, personnellement, je suis un peu comme, tu sais, les gens me disent « Oui, mais toi, Christian, c'est drôle, tu t'expliques ça, puis t'as toujours une explication, puis pourquoi tu restes là-dedans si tu y crois pas? » Ça n'a rien à voir. Moi, je ne comprends pas ce raisonnement-là. Moi, je suis un peu comme un policier. Est-ce que, de toi à moi, Camille, est-ce que tu penses qu'un policier a envie de se retrouver avec un cold case? Hein? Un policier qui enquête sur une histoire de meurtre, il veut trouver le coupable.
Il veut être quoi de concret.
Et il est satisfait lorsqu'il trouve le coupable. Pas quand il se retrouve dans un cul-de-sac en disant « Ah, oh, ben, je l'ai pas, le coupable, tant pis, il s'est sauvé. Bon, je sais pas c'est qui. » Il n'y a pas un policier qui a envie d'arriver à ça comme investigation.
Ouais.
Ben moi, c'est un peu la même chose. Quand j'aborde une histoire paranormale, je suis comme le policier qui veut trouver le responsable. Et quand je ne le trouve pas, je te dirais que ça m'agace beaucoup plus que quand je trouve une explication. En fait, ma satisfaction dans le paranormal n'est pas de ne pas trouver d'explication,
c'est d'en avoir
mais c'est d'en trouver une, justement. Tu sais. Fait que voilà, c'était pour répondre à cette question-là, oui, il y a de moins en moins de phénomènes paranormaux qui échappent à la science aujourd'hui, et je pense que dans les années à venir, ce nombre-là va aller toujours en diminuant.
OK, bien je remercie les auditeurs de se prêter au jeu des questions du public. J'adore, et Christian, c'était encore super intéressant ce soir. Je te souhaite un excellent week-end. On se retrouve, on a deux rendez-vous toujours la semaine prochaine, Suspect X dès 22h lundi, et un autre X-Files retour sur les ovnis vendredi prochain.
Oui, absolument. Et pour notre prochain notre prochain X-Files, notre prochain suspect X, oui. Je le dis tout de suite aux gens, c'est Charles Manson.
Oui.
C'est Charles Manson.
C'est le plus grand, le gourou des gourous, une des figures classiques, justement, des tueurs en série et des criminels.
The crime of the century. C'est le crime du siècle.
Soyez-y lundi 22h et bon week-end aux auditeurs et à toi aussi, Christian. Je te remercie beaucoup pour ce soir.
Merci. Salut.
Bye.